As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus loin, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux. Femme des territoires, pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, réseau business pour les dirigeantes, et Bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux dirigeantes d'entreprise, deux ingénieurs, scientifiques dans l'âme, expertes notamment en digitalisation, qui ont suivi leur passion, n'ont jamais lâché et sont devenues leaders mondiales dans leur domaine. Bonjour Clémentine Gallet.
Bonjour Marie.
Alors vous êtes ingénieure mécanique, experte en robotique, digitalisation. Vous êtes la CEO de Coriolis Composite, basée à Lorient, leader mondial de la conception des robots destinés à l'industrie aéronautique, de pièces en matériaux composites et des logiciels associés. Coriolis Composite, c'est 120 salariés, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 brevets déposés et une myriade de récompenses dans le domaine de la recherche. Vos clients sont prestigieux, Airbus, Dassault Aviation, Safran notamment. Vous êtes également présidente du comité aéro-PME du GIFAS, qui représente les industries françaises aéronautiques et spatiales. Et vous êtes enfin chevaleresse de l'Ordre du Mérite et de la Légion d'honneur. Bonjour Claude France.
Bonjour Marie.
Alors vous avez passé 34 ans chez Worldline, le leader européen des services de paiement et de transactions, quatrième acteur mondial sur ce sujet. Vous avez dirigé les activités digitales de Worldline Monde, soit 4000 personnes de ce groupe du CAC 40 qui réalise 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous êtes aujourd'hui sur le point de devenir consultante à votre compte. Vous êtes également administratrice indépendante d'Ubisoft. Ensemble, Claude France, Clémentine Gallet, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Clémentine, Claude, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Clémentine Gallet, on commence avec vous. Vous avez grandi à Lyon, dans une famille nombreuse. Vous adorez l'univers des sports mécaniques. Vous n'êtes pas très scolaire, à part en maths et en physique. Et vous prenez option techno en seconde et vous devenez en parallèle très vite indépendante à 16 ans, c'est ça ?
C'est ça, oui. Donc l'option techno, ça se joue en seconde. Et l'année suivante, une grosse envie de fuir la famille nombreuse, qui était un petit peu trop crowdy, comme on dit, pour aller m'installer
trop nombreuse
avec mon petit copain de l'époque dans un appartement qu'il fallait naturellement payer à la fin du mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? À 16 ans à l'époque, on pouvait travailler. Donc, livreuse de pizza pendant 2 ans. Les meilleures années, première terminale, pour aller livrer des pizzas, ça évite de faire les devoirs. Donc, on arrive en terminale avec un passage un peu clé qui s'appelle le le bac et puis on n'a pas forcément les notes qui vont bien pour la suite. Donc heureusement, un grand-père qui est un bon ingénieur en mécanique, qui voyait un peu mes compétences, m'a aiguillé vers une belle école qu'il a montée à la sortie de la guerre, qui s'appelle l'IUT Génie Mécanique de Lyon.
Et parce que c'est vraiment une figure importante pour vous. Vous avez deux figures importantes. Votre grand-mère qui élève des vaches dans le Vercors, c'est vous qui me l'avez dit. Et ce grand-père qui a créé l'IUT de Génie Mécanique de Lyon.
C'est ça.
Et qui vous prend sous son aile.
Voilà, et qui m'a jamais lâchée pendant toute cette période de première terminale où j'étais franchement plus du tout en contact avec mes parents. Que ce soit clair, c'était l'opposition dure. Et du coup, je passais quand même tous mes repas du dimanche avec lui. Et le suivi a permis de m'aiguiller dans mes études et de rentrer dans ce fameux IUT dans lequel j'ai passé deux années fantastiques.
Et... Ça se passe comment là-dedans?
Là-dedans, c'est une promo de 400 étudiants, 4 filles, naturellement, parce que l'ingénie mécanique, c'est pas le royaume des filles. Et une première expérience d'élection à la fin de la première année pour prendre la présidence du bureau des élèves. Donc ça s'est plutôt très bien passé puisque j'ai pris la direction du bureau des élèves pour la deuxième année d'IUT.
Vous l'avez créé en plus ce bureau des élèves.
Le bureau des élèves, c'est quelque chose qui de toute façon existe d'anthologie dans les écoles. Mais là, j'ai créé ma propre équipe et j'ai mis à la vice-présidence mon futur mari puisque je sentais que j'avais quelques acquaintances avec lui. Donc la deuxième année s'est passée à peu près comme mes dernières années de lycée. Des sorties de ski, des concerts, organiser plein de trucs pour les étudiants afin qu'ils s'amusent un peu le week-end et les soirées. Donc voilà, deux années d'IUT plutôt sympathiques avec une base de toute façon d'éducation qui est fantastique. Je m'en suis aperçue dans la suite de mes études que tout ce qu'on apprend à l'IUT, c'est une excellente base dans la vie d'ingénieur.
Et votre grand-père est quand même fantastique parce qu'il a créé l'IUT, donc c'est une figure majeure de l'IUT. Vous avez des notes, on va dire, râle et pâquerette, c'est ça? Et malgré tout, il vous soutient, il vous aide.
Voilà, donc je vais au bout ce cursus. Bon, j'étais pas non plus complètement aux fraises, mais c'était pas brillant ici. Mais beaucoup de mes amis après l'IUT sont partis en école d'ingénieur, alors que moi, j'ai fini dans les mauvais de la promo, qui m'a valu un départ pour l'Allemagne où j'ai passé par contre 3 ans de ma vie pour finir ce cursus d'ingénieur en mécanique, avec 3 ans dans une école allemande au milieu des Allemands, traitée comme une Allemande au milieu des Allemands alors que j'étais française.
Et donc, ça, vous devez à un prof.
Et là, je dois un prof de l'IUT qui sentait que j'avais quelques compétences. Enfin, je parlais assez bien allemand puisque j'ai fait mon lycée, était un lycée bilingue de Lyon, qui m'a valu d'avoir des bonnes bases. Et du coup, il s'est dit, bon, écoute, de toute façon, la fac, c'est pas pour toi. Déjà, à l'IUT, quand c'est un milieu un peu cadré, t'es pas cadrable. Alors, la fac, ça va être la catastrophe. Et t'as quand même des sacrées facultés. Donc, il m'a dit, allez, tu pars en Allemagne. On a un petit échange avec une école du côté de Stuttgart. Je me suis dit, Stuttgart, la mécanique, juste, c'est royal. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques. Et j'ai débarqué en Allemagne au milieu. Alors là, c'était pas 4 pour 400, le quota de filles, c'était carrément, j'étais la seule fille. Donc ça c'est...
Sur combien
ça a été, oh, ben là, on était 200, mais bon, c'était quand même assez impressionnant parce que c'est pas tout à fait la même population, c'est des gens plus âgés dans les écoles en Allemagne. J'étais assez impressionnée à la rentrée scolaire.
C'est l'université technologique d'Esslingen, si je prononce bien, en Allemagne, c'est ça. Vous êtes restée 3 ans, vous avez adoré cette expérience?
J'ai adoré, littéralement. Puisque
pourquoi?
Bon, alors déjà, je suis arrivée, encore une fois, avec le background IUT Génie Méca, on a quand même un très très bon niveau par rapport à l'Allemagne. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et puis peut-être que ça tient déjà au bac au préalable. Et en fait, c'est hyper libre. Donc, 2 mois après être arrivée là-bas, après ma rentrée, on m'a expliqué qu'on pouvait avoir du travail à côté. J'ai dit, OK, s'il y a du travail, je veux bien. Je suis rentrée dans un bureau d'études chez Thyssen Ascenseur où j'ai été prise comme dessinatrice industrielle. Ça m'a valu de gagner de l'argent, alors qu'à 20 ans en France, pour gagner de l'argent, c'est McDonald's ou livraison de pizza. Comme je l'avais déjà expérimenté, ça ne m'intéressait pas trop. Donc voilà, prise dans un bureau d'études, le patron qui vient vous voir le matin, qui met Sibir Kunstock, qui vous emmène boire un café à l'atelier, on fait le tour des machines, c'est ce qui va, ce qui va pas, et puis après vous retournez à votre boulot et vous n'êtes pas considéré comme un stagiaire à faire des photocopies, vous êtes considéré comme un futur ingénieur, donc c'est hyper valorisant, c'est enthousiasmant, on a du super matériel, on est vraiment bien quoi. Donc voilà, mes 3 ans, je les ai passés entre des stages dans l'industrie allemande de la mécanique et de l'industrie, en passant par des jobs et autres joyeusetés qui m'ont vraiment enchanté.
Et votre futur mari pendant ce temps-là, lui est en école d'ingénieur, vous sortez tous les deux diplômés en 1997, vous remportez rapidement plusieurs prix du ministère de la Recherche et dès 2000, vous cofondez avec lui Alexandre Hamelin, si je prononce bien, Coriolis Composite, qui est aujourd'hui leader mondial dans les machines-outils robotisées. Claude, à vous. Claude France, alors vous avez comme point commun avec Clémentine de venir de Lyon aussi, d'adorer les maths et les physiques quand vous étiez enfant, vous vouliez même devenir professeur de mathématiques. Vous avez grandi dans une famille modeste, votre père était chef atelier mécanique poids lourd et votre maman au foyer. Et vous avez toujours adoré bricoler, c'est pour vous un premier moment, est-ce que vous pouvez nous partager ?
Oui, alors tout à fait, c'était intéressant parce que j'adorais créer des mécanismes, inventer des petites choses dans mes jeux. Hein. C'était vraiment plus que de lire un livre. Ma passion, c'était de faire des choses, que ce soit en couture, en bricolage, en travaux manuels.
Par exemple quoi ?
Des petites pièces pour jouer après avec. Donc des petits mécanismes en bois ou des petits mécanismes en tissu. Donc c'était un peu une passion. Et papa disait toujours, c'est dommage, ce sera un garçon, on en fera un ingénieur. Bon, évidemment, à cette époque-là, on n'imaginait pas une femme devenir ingénieure. Et donc, de fil en aiguille, maman étant femme au foyer, mais étant convaincue qu'il fallait, en tant que femme, avoir la capacité de s'épanouir dans une vie professionnelle, au-delà de l'épanouissement de la vie familiale, nous a toujours poussé, ma sœur et moi, à faire des études, à progresser. Les professeurs ont conclu qu'on pouvait se lancer dans les classes préparatoires. Donc, je suis rentrée en classe préparatoire pour... ensuite accéder aux écoles d'ingénieurs.
Vous êtes d'ailleurs les deux, vous et votre sœur, les deux premières bachelières de votre famille.
Oui, tout à fait. On était dans une famille où les parents venaient de la campagne. Donc, par conséquent, s'arrêtait assez rapidement au niveau du certificat d'études. Et ensuite, rentrer en apprentissage, montait par le rang. Hein, mais c'est vrai que c'était pour eux une satisfaction de nous voir faire des études. Et étant en ville, c'était beaucoup plus accessible qu'en étant à la campagne, comme pour leur cas personnel. Donc, en 86, je suis sortie diplômée de mon école d'ingénieur après 5 ans de classe préparatoire et d'école d'ingénieur à Grenoble.
Alors, option génie nucléaire ?
Oui.
Aucun débouché ?
Alors, des débouchés techniques, bien sûr, mais mon rêve, c'était d'être en relation avec des clients, d'avoir, je dirais, une carrière technique, mais aussi commerciale, parce que j'aimais beaucoup la relation avec la clientèle. J'imaginais bien lancer des projets. Et on m'a très vite expliqué, à travers mes stages, que dans le nucléaire, par vendre des centrales nucléaires aux Chinois et avec un track record de plusieurs dizaines d'années d'expérience, avec des contrats plutôt négociés au niveau des États, c'était difficile d'avoir une carrière, je dirais, technico-commerciale voilà, dans ce domaine-là. Donc, j'abandonne la filière nucléaire et je rentre dans un métier d'ingénieur d'affaires donc, qui avait pour objet de répondre à des appels d'offres, mais également de piloter des projets qu'on avait vendus et de les installer sur site chez Alcatel Radio Téléphone.
Juste, vous étiez comme Clémentine, une des rares femmes, hein, j'imagine, dans cette filière.
Alors oui, tout à fait. Quand je suis rentrée chez Alcatel Radio Téléphone, j'étais en fait la première femme ingénieure d'affaires, donc un peu une curiosité, ce qui m'a permis de très vite connaître les 300 personnes du siège, puisque tout le monde venait un peu voir qui était cette énergumène féminin, enfin ingénieure d'affaires. Alors il faut expliquer qu'à l'époque Alcatel installait des réseaux radio dans des pays qui installaient de la radio pour compenser la faiblesse des systèmes télécoms, et donc effectivement en Égypte, au Moyen-Orient, donc dans beaucoup de pays où étant femme, c'était pas très facile d'aller. Moi-même, j'ai répondu une fois à un appel d'offres sur l'Égypte, mais je n'ai jamais été pilotée des projets dans ces régions-là, parce que c'était déjà assez compliqué. En revanche, j'ai piloté des projets sur la sécurité civile en France. Donc là, c'était plus accessible au niveau de tout ce qui était gestion de la centralisation des appels 18, voire gestion des systèmes de police et autres.
18 appels des pompiers, voilà. C'est vous qui avez piloté toute l'installation. Ça vous parle, Clémentine ? Quand Claude dit curiosité, tout le monde me connaissait.
Oui, forcément. Oui. Et de plus en plus en vieillissant d'ailleurs, parce que plus on monte dans les échelons un peu hiérarchiques, moins on trouve de femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe un peu pour des curiosités quand on arrive à diriger un certain volume d'affaires et avoir une forme de reconnaissance en plus de toute sa profession.
C'est pour ça que votre exemple est clé. Alcatel, passionnant, ingénieur d'affaires passionnant, mais absolument épuisant. Vous finissez
Oui, très alors c'est vrai que c'était un métier sur lequel on avait la réponse aux appels d'offres, donc avec des deadlines à respecter, pilotés par des marchés publics, donc datés forcément figé dans le marbre, et puis en plus l'installation des projets sur site. Donc ça veut dire des projets en province, prenant un avion sur la journée, donc lever 5 heures, rentrer 10 heures du soir. Donc tout ça était
tous
passionnant. Parce que j'adorais le chantier, en fait. J'ai vraiment adoré la notion de chantier, de pilotage de chantier, formation des utilisateurs, installation avec tout le côté, je dirais, très opérationnel de l'installation des chantiers. Mais c'était un métier qui n'était pas très compatible avec une vie de famille. Je ne me projetais pas plusieurs années comme ça. Et en plus, c'était un métier passionnant, mais donc forcément... j'ai un peu tiré sur la corde, si je puis dire, pas pris mes congés correctement, et je suis arrivée effectivement un peu épuisée. Donc un petit séjour à l'hôpital, et qui m'a fait réaliser qu'il fallait peut-être changer, et donc j'ai pris le temps de réfléchir, et je suis rentrée à ce moment-là dans la société que j'ai suivie pendant 34 ans, qui à l'époque ne s'appelait pas Worldline, s'appelait Cégine, mais qui m'a accompagnée pendant tout ce temps-là.
Vous étiez la 700e collaboratrice de ce qui allait devenir effectivement le géant Worldline, entreprise que vous allez diriger justement quelques années plus tard. Clémentine Gallet, Claude France, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneur en regard croisé. Alors, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risques, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés. Et puis, nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. On va commencer toutes les deux par un moment magique. Clémentine, vous, c'est en 2005, donc vous avez créé Coriolis Composite en 2000. Ça fait 5 ans que vous faites de la recherche, du développement. Et en 2005, vous aviez depuis toujours ciblé la construction navale, donc les bateaux, parce que vous aviez envie de traverser l'Atlantique avec votre mari, c'est ça? Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous partager ces moments-là?
C'est un peu ce qu'on appelle la deuxième vallée de la mort dans une start-up. La première étant de trouver des investisseurs qui veulent bien vous accompagner dans le développement d'une entreprise, quand vous avez 23 ans, que vous êtes une femme, que vous n'avez aucune expérience. Ça a été la première vallée à traverser.
Un moment, juste pour qu'on se rende compte.
Un moment, c'est des rendez-vous avec des patrons de banque qui vous regardent, qui vous disent « Mais comment voulez-vous ? Vous êtes bien trop jeune, partez, mais vous avez un diplôme d'ingénieur, mais partez bosser dans l'industrie. Arrêtez de croire que vous allez vous en sortir en créant votre entreprise. » Ou bien « Qui va garder les enfants ?» Parce que je crée la société avec mon mari. Donc forcément, il y a une question se posait de qui va aller garder les enfants. Enfin, tout ça. Et alors qu'on n'avait pas d'enfants. Et j'en ai eu 4 derrière, donc je ne considère pas que c'était un problème. Mais bon, voilà, donc quelques épisodes un peu houleux dans la première vallée de la mort de la levée de fonds. Et c'est vrai, ce moment magique de quand vous sortez. Bon, on a travaillé vraiment garage fermé pendant 3-4 ans pour développer la technologie, déposer tous les brevets, s'assurer que tout ça allait être vendable et valorisable. Parce que si vous n'avez pas de brevet, vous savez bien que vous n'allez pas pouvoir vendre à un juste prix et avoir une vraie position sur le marché.
Pour les bateaux, hein.
Voilà, pour les bateaux, à fond sur les bateaux. Donc une machine, il faut imaginer un gros robot sur lequel on avait développé une tête. Le premier prototype, nos fournisseurs, c'était plutôt le Roi Merlin et Brico Dépôt, sans citer de nom de marque. Mais globalement, c'était pas non plus la machine de guerre. Donc voilà, un premier prototype, on appelle super enchanté tous les leaders mondiaux qui sont en France de la construction navale, on leur dit on a un robot qui va pouvoir vous permettre d'automatiser vos ateliers, vous allez voir ça va être génial
qu'à l'époque, juste pour expliquer, à l'époque ils travaillaient encore la fibre dans des grands moules, c'est ça?
Oui, donc
pour
c'est
l'encoller
de la tapisserie
à la main, voilà.
C'est de la tapisserie à l'échelle industrielle, donc il faut imaginer qu'un bateau c'est finalement un moule à gâteau dans lequel on vient déposer des tissus avec de la colle. Bon, aujourd'hui c'est bien
plusieurs couches.
Voilà, plusieurs couches. Et on met tout ça au four. Et une fois que c'est cuit, ça devient donc dur. Et vous démoulez votre coque, que ce soit une coque de voilier, une pale d'éolienne, un fuselage d'avion. Tous les principes de base sont ceux-là. Et donc, la version construction navale, c'est de l'artisanat industriel. Il faut savoir qu'il y a 200 à 300 coques qui sont produites par an et que les cadences font qu'il faut s'organiser de façon à ce que ça sorte. Et on s'était convaincus avec mon mari que c'était le truc à automatiser parce que, bon Dieu de bois, c'est quand même pas vivable de mettre des bonhommes dans des coques qui font quand même 40 pieds, donc 12-13 mètres, comment les gars ils travaillent là-dedans. Enfin, nous, ça nous semblait évident que les robots avaient leur place dans ce genre d'industrie, mais ce n'était pas du tout le cas de nos clients qui nous ont regardé bêtement et qui nous ont dit bah, « Écoutez, les jeunes, c'est super, hein, mais alors on n'en a juste rien à faire. Donc, vous pouvez prendre vos super robots et aller voir ailleurs. » Et donc, le premier, deuxième, le troisième, tous la même réponse, on n'en a rien à secouer. Donc, on a pris nos petites affaires, on a pris notre business plan, on l'a mis dans la poubelle, comme toute bonne start-up, et puis on s'est dit « Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas se laisser abattre parce que quand même, on a fait tout ça, c'est pas pour rien. » Et on a appelé nos copains de l'aéronautique qui nous avaient quand même donné 2-3 tuyaux, notamment sur les technologies qui existaient déjà dans l'aéronautique, parce qu'il faut savoir que l'aéronautique et la défense, les matériaux composites, ça existe depuis les années 40-50. Et on avait vu qu'il y avait déjà pas mal de choses qui existaient dans le domaine. Donc on les appelle, on les invite à Lorient pour voir cette fameuse machine un peu proto-bricolo qui déposait de la fibre de verre. Enfin, c'était pas du tout adapté à l'aéronautique, c'était la version chantier naval, quoi. Et donc on leur dit, voilà, c'est la machine, on a réussi à faire ça avec le peu de fonds qu'on avait levé, parce que globalement, même si on a réussi à lever des fonds, c'était pas le bout du monde. Et moi j'y vais au bluff, je leur dis, bah, écoutez, c'est très simple, nous il nous reste 6 mois de trésor. Si on n'a pas de commande d'ici 6 mois, on s'en va aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les composites, ça cartonne dans l'aviation, et donc on trouvera forcément quelqu'un pour nous passer la première. première commande. Et ça n'a pas loupé. 4 mois après, on avait la commande. Bon, ça a pris des mois de négo parce qu'on n'était quand même pas tout à fait crédible pour remettre ne serait-ce qu'une offre avec un devis. C'était compliqué, mais on a vite appris. Et donc, 4 mois après, on avait la première commande d'Airbus pour le site en plus de Nantes. Donc, c'était quand même plutôt pratique quand on est à Lorient parce que ça aurait été Hambourg. On n'avait même pas les moyens de prendre l'avion pour aller signer une commande. Mais donc là, ça se trouve à Nantes et Airbus nous honore de cette première commande pour son centre de recherche qui lançait en fait le futur de l'aviation décarbonée avec l'utilisation des matériaux composites, l'allègement et autres success stories de l'aviation.
Donc, ce n'était pas une commande de machine, on est bien d'accord. C'était de la recherche, mais ça vous fait faire un bond en avant.
C'était une machine pour la recherche, mais c'est le bond en avant. Et puis surtout, quand vous passez d'un client qui était potentiellement un chantier naval à Airbus, autant vous dire que vous buvez du champagne jusqu'à ce que vraiment tout oublier. On était euphorique, complètement euphorique. C'était pour nous une parfaite reconnaissance. Et vous avez le regard qui pétille des ingénieurs qui voient votre machine et qui dit « Bon, allez, les jeunes, vous n'êtes pas crédibles, mais ça a l'air quand même assez génial ce que vous avez développé. Il y a 2-3 trucs là-dedans. » Puis c'était vraiment le 2-3 trucs là-dedans qui sont vraiment hyper, hyper smart. Donc on y va, quoi. On prend le risque avec vous.
Et puis c'était la misère financièrement, hein, parce que...
Ah oui, là, ça ramait, mais on sent... Alors franchement, j'ai jamais eu le sentiment d'être dans la misère. On était les plus heureux du monde, on avait les planches de surf à l'arrière de l'atelier, donc c'était pas non plus un gage de crédibilité vis-à-vis d'Airbus, parce que les combinaisons et les surfs, c'était pas tout à fait raccord avec l'aéronautique. Mais on s'est vite entendu et raccordé avec les spécifications.
Claude France, vous, votre moment magique, c'est à votre retour de congé maternité du deuxième enfant. Ça fait déjà plusieurs années que vous êtes chez Worldline. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, en fait, comme à chaque congé maternité, j'avais lâché mes dossiers, j'étais prête à prendre un nouveau challenge. Mais j'avais appris juste avant de rentrer qu'ils venaient de nommer un nouveau directeur commercial et moi j'avais envie...
À votre place, c'est ça?
Pas à ma place, parce que j'aurais pu prendre j'étais en position de prendre le poste, mais ils devaient estimer que j'étais un peu jeune encore pour prendre le poste. Et donc, j'avais envie de changer un peu de sujet, de voir d'autres choses. Donc je me suis dit, c'est peut-être un signe, donc je me mets en quête d'un nouvel emploi. Je trouve un poste de direction commerciale. Et donc, je prends rendez-vous avec mon directeur général de l'époque et je lui annonce que je vais démissionner. Donc, je lui donne ma démission et il me dit, c'est bien dommage. Je me rappelle, c'était un vendredi soir et il me dit, c'est bien dommage parce que moi, lundi matin, j'annonce qu'on rachète notre premier concurrent et si tu restes dans le groupe, tu viens avec moi et tu pourras t'occuper du dossier de l'intégration de cette société. Alors, cette société, pendant 6 ans, je m'étais battue en termes de business contre eux, à perdre des appels d'offres, à me demander ce qu'ils avaient de plus que nous quand ils gagnaient, etc. Donc, c'était totalement irrésistible. Et je me suis dit, non, je ne peux pas lâcher ça, ce n'est pas possible, je ne suis pas à un an près. Donc, j'ai dit, écoute, tu oublies ma démission.
Immédiatement, vous avez dit
oui,
ça?
Oui, oui, oui. C'était vraiment, pour moi, c'était le signe. Et donc, tu oublies ma démission. Et effectivement, je suis partie sur l'intégration de ces sociétés. J'ai travaillé à l'époque, en plus, avec la direction générale du groupe qui était en charge des fusions-acquisitions, puisque le dossier ne se faisait pas au niveau uniquement de notre unité, mais bien sûr à un niveau plus global. Donc, j'ai découvert tout un monde, des choses très différentes.
Vous avez fait aussi un bond en avant, là aussi.
J'ai fait un bond en avant et c'était extrêmement intéressant. Et je n'ai jamais regretté cette décision. Et par ailleurs, après, je me suis toujours dit, en fait, c'est le destin. C'est-à-dire que ça m'a toujours donné une confiance assez importante. Même, il m'est arrivé de perdre de gros dossiers ou des choses qui ne se faisaient pas comme j'avais envie qu'elles se fassent. Et je me disais, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça devait ne pas se faire. Ça a influencé, en fait, ma façon d'appréhender les choses de manière toujours positive en me disant, de toute façon, c'était dit. Et donc, il faut accepter ce qui se passe. Et puis, on va rebondir. Et donc, ça donne, ça m'a donné, je pense, cette capacité aussi à affronter différents obstacles de manière complètement différente. Parce que ça m'avait vraiment marqué.
Les choses sont bien faites, c'est ça?
Voilà.
Et ce que vous m'avez dit en préparant ce podcast, c'est qu'à chaque fois, vous avez un moment de repos, c'est-à-dire ne pas être dans la roue du hamster du quotidien, etc. Donc, la convalescence, on en a parlé tout à l'heure lors de votre maladie. Là, le congé maternité, mais c'est pas vraiment du repos, mais en tout cas du recul. À chaque fois, ça fait faire un bond dans votre carrière.
Oui, parce que je pense que c'est des moments où on se détache forcément de l'entreprise, d'un quotidien. Et donc, on se pose des questions sur soi, on se pose des questions sur ses envies. On n'est plus, effectivement, facilement dans un quotidien qui nous happe, parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, on ne se pose pas de questions. Donc, on a un relationnel dans l'entreprise qui est satisfaisant, qui nous passionne, avec un métier qui nous passionne, et donc tout avance, et puis on est plutôt à 100 à l'heure et plutôt débordé que toute autre chose. Donc, ça ne laisse pas le temps à la réflexion. Et c'est vrai que ces moments où, finalement, on décroche un peu de ce quotidien, nous amènent à réfléchir. Et je pense aujourd'hui que même quand on voit ce qui s'est passé après le confinement sur le Covid, c'est sans doute ce phénomène de se détacher de l'entreprise qui a amené aussi des gens à se poser des questions, à réfléchir et à prendre des décisions un peu différentes. Je pense que ça a eu un très très gros impact.
Moi, j'ai eu quelques épisodes comme ça aussi, puisqu'avec les quatre grossesses, bon, c'est vrai que et c'est pas donné aux garçons, ça. Enfin, on les voit eux plus en mode hamster et du coup, le moment où ça s'arrête est beaucoup plus violent, je trouve. Le moment où ils se posent, ils se disent bon, ok, mais alors là, il va falloir que je réfléchisse. Et alors comment je vais réfléchir, parce que ça s'arrête jamais, comme vous l'avez dit. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver ce moment où ils vont dire là, faut que je lève le pied, faut que je réfléchisse. Bon, ils l'ont pas spontanément, alors que nous, on a... Bon, ça dure plus ou moins longtemps, les arrêts de maternité. Moi, c'est vrai que j'en ai eu des plus ou moins longs. Ça a été... Et notamment celui de ma fille, il était particulièrement court. Mais et à chaque fois, c'est des moments... Et puis, en plus, d'un point de vue hormonal, de toute façon, on est tellement bien qu'on voit la vie complètement différemment aussi.
Prendre du recul, hein. Savoir prendre du recul, savoir prendre du temps pour construire autre chose, pour construire la suite, ça, c'est aussi une vraie leçon. Pouvez-vous partager avec nous l'opportunité que chacune d'entre vous, vous avez su saisir? Vous avez su voir d'abord, que vous avez su saisir et qui a ensuite déclenché la suite. Claude, vous, c'était en 1995, on était encore à l'ère du Minitel, qui était votre principal outil à l'époque hein, chez Worldline, notamment pour tous vos clients et notamment les clients de la vente par correspondance. Et puis un jour, avec votre équipe, vous découvrez tout à fait autre chose. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous ?
Oui, alors effectivement, on était sur l'ancêtre des services en ligne, hein, les services Minitel et les services vocaux. Et puis, notre dirigeant voyait bien que c'est une époque qui allait, se terminer. Et nous dit, il faut absolument, si on veut faire de la croissance, si on veut continuer à grandir, aller vers les applications sur un PC, sur un micro-ordinateur. Donc, on commence à réfléchir avec des architectures client-serveur. On découvre Microsoft Network, des tas d'initiatives aux États-Unis. Et on tombe aussi sur Internet, le web, les pages HTML, etc.
Et quelle a été votre réaction quand vous avez vu ça ?
Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. On s'est dit, d'abord parce que le Minitel était quelque chose de franco-français. Donc, forcément, avec des limites. Quand on découvre tous les usages d'Internet avec le micro-ordinateur, on se dit, là, c'est mondial. Et ça va forcément complètement transformer notre façon de travailler, notre façon d'interagir. Donc, avec l'équipe de R&D...
Pardon, c'était pas évident à l'époque de voir que ça allait transformer le monde, hein.
Oui, mais en fait, on était déjà... dans les services en ligne. Hein. On baignait dedans quand même. Tout ce qui était information, etc. On avait la chance d'avoir bien compris les business models, d'avoir compris un petit peu comment les gens utilisaient finalement ce réseau France Télécom de l'époque hein, pour acquérir de l'information, se connecter, passer des commandes, puisqu'à l'époque, la VPC marchait absolument avec ces systèmes-là. Voilà, vente par correspondance. Donc, on avait quand même une bonne compréhension de tout ça. Et quand on voit le potentiel de ce qui se passe sur un micro-ordinateur avec ces pages HTML beaucoup plus riches que ce qu'on pouvait faire sur une interface Minitel, ce réseau qui allait être mondial. Donc, on s'est lancé dans la recherche des applicatifs et on a été sollicité par une équipe américaine pour faire un premier service sur le Tour de France avec, effectivement, ils nous ont expliqué, mais les Américains adorent les petits villages français, il faut absolument qu'on arrive à montrer ça en images. On a fait un des premiers sites web en France. On a même réussi à faire casser le réseau à un moment donné parce que tout le monde voulait se connecter sur les résultats en même temps. Donc, on avait des réseaux RTC à l'époque qui n'étaient pas du tout, bien sûr, dimensionnés pour ce type d'usage. Mais on a vraiment vécu une aventure fantastique entre 1995 et 2000 sur tous les démarrages d'Internet et la façon de transformer aussi un business model qui était un modèle à l'heure, à l'appel, etc., sur les réseaux surtaxés Orange, en transformation complète. Avec un business model à la transaction pour inventer quelque chose qui était lié à la publicité et qu'on voit aujourd'hui sur tout ce qui se passe avec les GAFA et autres.
Et donc vous faisiez partie à ce moment-là des pionnières et il a fallu convaincre autour de vous, dans votre entreprise aussi,
oui,
que c'était l'avenir. C'était pas évident.
Non, c'était pas simple parce que, en fait, la problématique pour l'équipe dirigeante de l'époque, c'était de voir, je pense qu'ils pouvaient voir le potentiel technologique, mais par contre, sur le business model, effectivement, tout semblait gratuit sur Internet. Donc, c'était très perturbant parce que quand on fonctionnait sur des services Minitel ou des services vocaux ou l'opérateur payant ou l'opérateur rétrocédait une partie des revenus, c'était un business model très sécurisant, très facile d'abord. Sur Internet, il fallait tout inventer. Donc au départ, on pouvait faire la même application sur Internet et elle ne rapportait pratiquement rien par rapport à ce qu'elle pouvait rapporter sur les réseaux surtaxés. Donc c'était compliqué d'imaginer comment on allait faire de la croissance et transformer notre modèle existant très confortable en un modèle beaucoup plus à risque. Mais pour moi, il était évident que les volumes n'allaient pas être les mêmes. Donc à partir du moment où les volumes n'allaient pas être les mêmes et qu'on allait avoir une appétence de l'ensemble de nos clients pour ce type de service, forcément on arriverait à développer des choses payantes.
Donc vous avez évangélisé.
Voilà, on a formé, on a évangélisé la direction générale à l'époque sur tous ces sujets.
Vous, Clémentine, l'opportunité que vous avez su voir, que vous avez su saisir et qui a changé le cours de Coriolis Composites, c'est en 2015, vous l'avez dit, vous étiez avec vos planches de surf, les tongs, les cheveux longs, et vous faites une rencontre qui va sacrément changer le fonctionnement de l'entreprise. Vous êtes à ce moment-là au salon aéronautique du Bourget. Est-ce que vous pouvez nous raconter le culot que vous avez eu?
Oui, donc, la livraison de la première machine en 2007 jusqu'en 2015, on a vécu...
Airbus.
On a vécu, cette croissance un peu folle parce qu'on arrivait sur un marché dans lequel il n'y avait absolument eu personne au préalable. Donc, avec un système totalement automatisé, des logiciels, c'était l'industrie 4.0. Donc, on a eu un engouement du marché. Donc, on a pris les premières commandes. Et puis, essentiellement pour des labos de recherche, puisque la technologie était quand même assez innovante, assez en rupture, donc on sentait que les labos de recherche étaient particulièrement intéressés, et mon mari étant quand même un mécanicien et toute l'équipe était derrière pour dire, attendez, on a développé une machine, c'est pas pour faire de la recherche, on veut avoir une application industrielle, on veut que la machine tourne en 3-8 dans les usines, quoi. C'est pas une machine, c'est pas pour s'amuser, faut que ça produise. Donc on s'est démené pour aller à l'export et on a chopé notamment une première commande pour une machine qui allait enfin être utilisée dans une usine pour fabriquer des pièces d'aérostructures qui volent et qui étaient chez Bombardier à Montréal. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait aller très très loin pour trouver des clients, et ça, moi je suis assez férue parce que, ayant fait mes études à l'étranger, j'avais pas peur d'y aller. Donc ça nous a valu une belle bataille pour rentrer chez Bombardier et être qualifié donc dans l'aéronautique. Mais le Graal, donc c'était un appel d'offres qui a été lancé par Airbus dans les années 2014 et qui représentait un nombre conséquent de machines. Donc là on partait sur une grosse production. Et pour lequel on s'est dit, allez, chiche, on bide et on y va, quoi. Et donc on bide, on passe... On candidate, quoi. On répond à l'appel d'offres. Donc ça passe par des étapes assez longues et douloureuses d'assessment où les acheteurs viennent vous voir, où tout le monde vient tester la technologie. OK, ça marche, ça c'est bon. Donc on coche un peu toutes les cases. On passe un an à montrer que ça y est, on a le droit d'y aller. Mais la commande est toujours pas passée, mais ils cuisinent un peu tous les fournisseurs, donc nous on en fait partie. Déjà on était contents d'être sélectionnés pour les assessments. Et arrivé à la fin, toute l'équipe technique nous dit, nous on vous adore vraiment, mais franchement ça va pas passer, quoi, au niveau de la direction, c'est pas possible, vous êtes trop petit, enfin bon, il y a un moment, c'est pas possible. Et donc je me retrouve au mois de juin au salon du Bourget, invité par le GIFAS, parce que j'étais déjà
groupement
par,
qui représente
groupement
toutes
des industries de l'aéro et du spatial. Et comme je suis une fille, ingénieure, quatre enfants, patronne de boîte, je suis souvent appelée à prendre la parole, et là je me retrouve devant le président de la République, François Hollande, et puis une personne qui était ministre de la Défense et qui a été en plus le premier parrain de l'entreprise, puisqu'il était maire de Lorient à l'époque, donc Jean-Yves Le Drian, qui me connaît du coup depuis que je suis toute petite, puisque ça a été le premier investisseur dans l'entreprise, ou du moins le premier à nous soutenir dans le cadre de notre installation à Lorient. Donc je me retrouve devant cette belle représentation, Jean-Yves Le Drian me connaissant bien, bon, on commence à entamer la conversation, et puis un pitch que je devais faire, qui devait durer 2 minutes, se transforme en 10 minutes, parce qu'on y va sur comment ça va à Lorient, on y va sur des discussions autour du développement de notre entreprise, comment ça s'est passé, enfin voilà, donc une discussion plutôt ouverte avec le président de la République et son ministre. Arrive la séquence, on sort sur la terrasse pour les photos, et nous rejoignent tous les patrons de l'aéro. Et je me retrouve du coup avec le président d'Airbus, le président de la République. Le président de la République me prend par le bras, ayant bien compris mon business, va voir le patron d'Airbus et lui explique « Bon alors monsieur, l'A350 faisait son vol inaugural et donc, comme tout le monde sait que l'A350 est tout en composite, le président de la République dit au président d'Airbus « Bah alors j'espère que c'est les machines de Clémentine qui fabriquent cet avion parce qu'ils ont bien la pêche, ils ont une sacrée technologie, c'est français. » Là, je coupe l'herbe sous le pied du président et je dis « Ah non !» Monsieur chez Airbus, on préfère des machines américaines parce que bon, ils sont plus gros, ils sont plus intelligents. Enfin, nous, voilà. Donc, je commence à couper un peu la discussion et à m'avancer sur un terrain qui n'était absolument pas du ton de. d'un président d'un groupe aéronautique comme Airbus. Et je m'enfonce en plus parce que François Hollande continue en disant « Mais vous les connaissez quand même, ils ont l'air sympas, les jeunes à Lorient. » Et là, le président d'Airbus répond « Oui, c'est des jeunes chercheurs là, du côté de la Bretagne. Ils sont sympas, les jeunes chercheurs. » Et moi, je me retourne vers lui, je dis « Mais attendez, on a arrêté de chercher, on a trouvé. » quoi et ça fonctionne super bien. Et aujourd'hui, sur la photo de tous mes clients, j'ai tous vos concurrents, mais j'ai quand même pas d'Airbus. Quoi. Et c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Et vous dites en permanence qu'on est trop petit, mais en fait, si vous nous passez pas de commande, ben, on va rester trop petit et puis en fait ben, ça va s'arrêter là. Donc allez-y, croyez en nous. Et donc voilà, la discussion se ferme là-dessus. Je sens que j'avais vraiment pas du tout eu le comportement qu'il fallait par rapport au président que j'avais en face de moi, mais je me fais convoquer à Toulouse 2 mois plus tard et explication de texte avec la même personne qui m'a dit « Ok, on vous passe la commande, on a bien compris que vous avez une super techno, on a vérifié les assessments, c'est bon ». Mais par contre, que ce soit bien clair, parce qu'on prend tous un risque dans cette histoire, si vous livrez avec une seconde de retard, c'est même pas des pénalités que vous allez avoir, c'est la boîte, elle est pliée, elle est morte. J'ai dit, bah banco, on y va, et puis on va essayer de livrer à l'heure. Et derrière, gros challenge, voilà, c'était une super opportunité, fallait un peu y aller au culot pour la prendre, mais on l'a prise et on n'a jamais regretté, parce qu'on est rentré dans la cour des grands grâce à cette commande, et depuis on tient le place des 3 premiers mondiaux dans la technologie. Quoi.
16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein,
cette commande-là, oui, alors qu'on en faisait une petite douzaine, quoi.
Et alors, en temps et en heure, est-ce que la machine a été livrée ?
Voilà, elle a été livrée en temps et en heure. Ça nous a valu des sueurs froides et nez du blanche, mais c'est surtout que ça nous a valu l'invention d'une nouvelle expression dans la mécanique qui consiste à tomber en marche, puisque le jour où Airbus venait pour la réception chez nous de la machine avant expédition chez eux, la machine ne fonctionnait absolument pas la veille à 23h. Je faisais le tour des équipes, ils ne comprenaient pas, mais putain, on ne sait pas ce qui se passe, elle ne marche pas, mon Dieu. Et demain, il y a Airbus qui vient, on va se faire tuer. Et le lendemain, Airbus arrive à 9h et on appuie sur le bouton et la machine tombe littéralement en marche. Et donc, on s'est dit, bah, comme quoi le destin, parfois, ça tombe du mauvais côté, mais parfois, ça tombe du bon côté. Et là, on était plutôt contents et après, tout s'est bien déroulé dans la suite.
Ça vous évoque quoi, Claude ?
Ça m'évoque l'effet des mots dans nos métiers où toujours très difficile d'arriver pour faire la démonstration de son savoir-faire et on appelait ça l'effet des mots. C'est-à-dire, de temps en temps, ça marchait très bien, puis de temps en temps, on avait quand même un problème de dernière minute.
Est-ce que vous voulez bien partager avec nous maintenant un moment difficile ou un moment qui n'est pas simple que vous avez dû affronter ? Claude, je crois que c'est quand Worldline triple de taille en 2005. Et là, on vous propose à nouveau un nouveau poste, mais cette fois à l'international qui est pas du tout dans votre domaine.
Tout à fait. Alors, j'étais en charge d'une grosse équipe, d'une grosse unité en France de 300 personnes. Et effectivement, le groupe étant devenu beaucoup plus grand et international, le dirigeant de l'époque me demande de reprendre des fonctions plutôt business pour dynamiser le business dans d'autres pays que la France, donc l'Allemagne notamment, où on avait une grosse présence, et puis amener un regard sur la stratégie, sur les innovations dans le paiement, sur tout ce qui allait se passer, notamment avec l'arrivée des applications mobiles et de tout ce qu'on peut imaginer, qu'on a vu fleurir à travers les Apple Pay, Google Pay, etc. Donc, c'est un poste beaucoup plus petit en termes de management d'équipe, puisqu'on passe de 300 personnes à 40 personnes. C'est pas du tout sur les mêmes sujets. Tout se fait en anglais, ce qui n'était pas ma tasse de thé à l'époque. J'avais eu une carrière très française, en ayant pratiqué l'anglais finalement de manière scolaire et assez peu professionnelle. Donc, je suis partie en immersion plusieurs fois en Irlande pour faire progresser mon anglais, qui était quand même le point difficile. Puis, petit à petit, je me suis rendue compte quand même de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'un ensemble de capacités qu'on a, de qualités qu'on a, qui s'appliquent très bien dans un domaine très différent. Notamment quand vous savez, de manière très pédagogique, expliquer quelque chose, transmettre, avoir une pensée claire, que ce soit en français ou en anglais, finalement, vous arrivez très bien à l'exprimer. C'est-à-dire que le fait d'avoir une pensée claire, la langue n'est pas un obstacle, le langage est sans doute beaucoup moins élaboré,
mais ça passe.
Mais ça passe parce qu'on arrive à expliquer des choses de manière claire, et ça, c'est une qualité qu'on garde dans toutes les langues. Donc, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un vrai moyen de progresser, de connaître aussi d'autres cultures, parce qu'on ne se rend pas compte quand on travaille dans un monde franco-français, à quel point, finalement, même en Europe, on se dit européen, donc on se sent plus proche, mais malgré tout, chacun a sa culture, et donc c'était un moyen aussi pour moi de progresser dans ce domaine-là. Et puis, après, d'avoir des activités très différentes, puisque j'ai découvert les activités de fusion-acquisition, des activités dans le domaine de la stratégie, beaucoup plus high level que l'opérationnel courant, comme je l'exerçais en France.
Quand vous a proposé ce poste, vous avez hésité ?
Alors, bien sûr, j'ai hésité parce que j'en avais pas envie.
Je sais que vous avez dit non.
J'en avais pas envie et parce que j'adorais l'opérationnel et j'adorais piloter et j'adorais manager mes équipes. Et j'ai toujours aimé manager beaucoup d'équipes avec des projets qui aillent bien, qui aillent mal pour arriver à emmener tout le monde dans une direction et surmonter l'obstacle. C'est des choses qui m'ont toujours beaucoup plu, un peu comme mon démarrage dans les chantiers. Donc ça, c'était un peu ma passion. Et le poste qu'on me proposait était un poste beaucoup plus transverse, beaucoup plus politique, beaucoup moins opérationnel de fait, puisqu'il fallait aider les gens à faire de la croissance ou du business. Mais malgré tout, quand on est à l'international et que chaque pays est bien implanté et que toutes les négociations se font dans la langue du pays, on n'a pas la possibilité en transverse de négocier dans toutes les langues. Donc, on induit, mais on n'agit pas en direct.
Et du coup, vous avez dit non au début ?
Alors, au début, j'ai dit non. Et puis ensuite, ayant très confiance dans mon dirigeant à l'époque, je me suis dit, il pense que c'est pour mon bien. Ça va me sortir de ma zone de confort. Donc, il faut y aller. Je pense que c'est quand même un bon moyen de progresser. Je n'ai jamais regretté non plus.
Et vous, Clémentine, un moment particulièrement difficile, c'est forcément le Covid qui a été catastrophique pour de nombreuses filières, mais aussi et notamment pour l'aéronautique, puisqu'il y a eu une suspension des liaisons aériennes. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment ça s'est concrètement passé pour vous, pour votre entreprise à ce moment-là, et notamment votre expérience à vous ?
Ouais, et ben c'est clairement... Moi, j'avais vécu pendant toutes ces années de croissance à gérer des challenges, organiser la croissance, se développer aux États-Unis, se développer par-ci, par-là. Plein de choses qui ne relevaient pas forcément de mes compétences, mais qu'on finit par apprendre sur le tas et en marchant, quoi. Et pour lesquelles je n'avais pas vu de difficultés. C'était comme vous, monter des équipes, s'assurer qu'on livre à l'heure, s'assurer que tout le monde est bien en ligne, que les clients sont contents, que les équipes sont contentes. Tout va très bien. Et puis, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Donc, tout s'est arrêté.
Du jour au lendemain.
Donc, nous, mars, ça a été blackout total, mars 2020, dans l'aéronautique, puisque, bon, déjà, on n'a plus de contact avec personne, on ne bouge plus. Mais en plus, plus un avion vole, donc toutes les lignes de production s'arrêtent. Et quand vous êtes dans la fourniture d'équipement pour des usines, autant vous dire que le téléphone se met à sonner dans les 5 minutes. Et toutes les machines qui étaient sur le point de partir dans les usines, elles doivent rester chez nous et elles n'ont plus lieu d'être livrées.
Donc, plus personne n'en veut, c'est ça. Tout le monde vous dit, gardez vos machines.
Et de préférence, des entreprises qui ont une solidité financière qui n'était absolument pas la mienne, arrêtent tous les contrats et vous disent « vous vous démerdez, je ne veux pas le savoir, mais la machine, non seulement j'en veux pas, mais je ne la paye pas, et puis débrouillez-vous ». Donc, un peu de panique à bord, là. Vous avez 150, 160 salariés, les machines doivent rester, vous devez négocier les 2-3 bouts de gras avec des acheteurs qui ont absolument envie de parler à personne, puis qui sont débordés parce que c'est panique. Enfin, c'est pas panique générale, mais globalement, tout le monde se couvre et tout le monde essaie de se dire, on sait pas combien de temps ça va durer, il faut faire super gaffe. Les instructions sont données, donc là, c'est même plus de la sortie de zone de confort, c'est de la crise, mais comme on pensait même pas que ça pouvait arriver. Donc, cette espèce d'ambiance un peu collective qui vous porte, où finalement il y a une émulsion, s'arrête d'un coup, on rentre dans la défiance, on rentre dans des relations super violentes et très très difficiles. Et alors là, pour le coup, je parlais des clients avec qui il faut aller se battre et leur expliquer que me faire mourir moi, c'est juste pas correct parce que eux ont des fonds qui leur permettent de tenir, mais pas moi. Aller voir les salariés, leur dire bah, écoutez les gars, c'est dommage, je suis vraiment désolé, mais là pour passer, soit on en met 150 dehors, soit on en met juste une trentaine et ça sauvera la boîte. Tout le monde se met à vous détester et du jour au lendemain, tout s'écroule, toute la confiance que vous avez eu l'impression d'avoir montée et cette aventure un peu collective s'effondre. Et donc, ça a été vraiment la énorme, énorme difficulté. Et en plus, c'est le genre de plaisir qui dure en général, puisque c'est jamais résolu en 2-3 mouvements. Alors, on a réagi hyper vite. Donc là, on a fait tout ce qu'il fallait pour mettre la boîte en sécu, mais ça a quand même pris 6 mois. Ça passe par un plan de sauvegarde de l'emploi, un truc dont je savais même pas que ça existait. Plus jamais de ma vie, je ferais ce genre de choses, parce que ça, tout s'arrête pareil. Personne ne veut travailler pendant 6 mois, pendant toutes les négociations. Enfin, voilà, on rentre dans une ambiance qui n'a juste plus rien à voir avec toutes les années qu'on avait passées à se motiver pour des challenges et se serrer les coudes et faire des barbecues, des apéros. Tout ça s'est arrêté d'un coup. Et ça a été assez, assez compliqué à gérer, ouais. Mais l'issue est quand même très très belle, donc je suis assez contente.
Comment vous vous sentez à ce moment-là ?
Seule. Alors, pour le coup, j'ai quand même monté l'entreprise avec mon mari d'abord, et puis des associés qui étaient là depuis l'origine. Là, clairement, j'étais vraiment seule. Ouais. Et puis, je pense que l'impression de solitude est encore pire en fonction de sa personnalité. Je pense que j'étais pas vraiment seule. J'avais quand même tout le monde qui était là, mais je sentais pas qu'ils étaient à ma place, en fait. Enfin, j'étais seule à occuper cette place d'en prendre un peu plein la figure, vraiment en première ligne, quoi. Et cet effet première ligne m'a fait me sentir seule et m'a fait me rendre compte de toute la responsabilité que j'avais par rapport à ces gens et des actionnaires, des salariés. Et des clients, ça fait un paquet de monde à gérer dans une situation où tu sais absolument pas comment. Enfin, tu vois assez vite, mais tu sais pas comment tu vas t'en sortir quand ça te tombe dessus. Et cette solitude, elle venait surtout du fait que moi, j'ai toujours été dans le collectif, encore une fois, et que là, je sentais plus du tout la confiance autour de moi. Et quand j'ai plus confiance dans les gens qui m'entourent, ça devient très très difficile pour moi d'avancer.
Vous m'aviez dit, je détestais tout le monde à ce moment-là.
Alors c'est surtout après un bon épisode de 6 mois à vraiment taper dans la réserve et me mettre dans un état de fatigue mais profond. Je me suis réveillée le 1er janvier 2021 et je détestais tout le monde. Mais c'était simple, je voulais plus voir personne, donc il a fallu un petit moment de 6 mois de tanière où il fallait pas venir me chercher. J'ai laissé la boîte parce que je l'avais mise hors d'eau, hors d'air, tout allait bien. Et là j'étais assez imbuvable avec tout mon entourage. Mais j'avais besoin d'avoir ce retour. Parce qu'une fois que tout a été calé et que la boîte était sauvée, il fallait que j'expulse un peu la difficulté du passage 2020.
Je vous vois sourire, Claude.
Oui, parce que je pense que... En tant que dirigeant, on est à la fois à la tête d'un nombre de collaborateurs très important, donc normalement on n'est pas seul, mais en fait on est quand même seul quand on doit être responsable et assumer des choses très difficiles.
Vous avez dirigé jusqu'à 4000 personnes,
oui.
Vous avez ressenti ce sentiment-là aussi ?
Oui, sur des sujets très complexes, quand on doit prendre des décisions des fois difficiles, quand on doit, agir en son âme et conscience. D'abord on se sent responsable. Des 4000 personnes, parce que quand on est responsable opérationnel d'une unité pour la faire fonctionner, des contrats qui vont tomber, du chiffre d'affaires, de la marge et de la rentabilité, forcément, on sait très bien qu'on fait vivre des milliers de familles derrière grâce à cette activité, donc on est responsable. Donc ça, c'est quelque chose qui pèse énormément sur le dirigeant. Donc de toute façon, par rapport à cette responsabilité, il est seul et il doit prendre les bonnes décisions. Donc forcément, il y a un entourage, il y a des collaborateurs, il y a des proches qui aident, qui soutiennent. Mais malgré tout, in fine, c'est quand même au dirigeant de prendre des décisions et d'assumer ses responsabilités par rapport à l'unité dont il est totalement responsable.
Dernière question. À quel moment avez-vous eu l'impression de sortir de votre zone de confort, Claude ? C'est maintenant ? Parce que vous avez quitté Worldline pour des raisons qui vous sont personnelles fin d'année dernière, fin décembre 2022. Et aujourd'hui, vous vous apprêtez à devenir entrepreneur. Vous êtes aussi administratrice chez Ubisoft, mais vous vous apprêtez à devenir entrepreneur. Comment vous vous sentez ?
Alors, c'est une autre solitude, c'est très différent. Je dirais qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'aime faire, à la fois gérer des projets et puis manager beaucoup de gens, etc., ça sera très différent, forcément. Mais je me sens maintenant l'envie de transmettre. Parce que je pense que par rapport à cette expérience, j'ai beaucoup de choses à transmettre à d'autres. Ça me donne l'envie d'aider aussi des dirigeants qui peuvent être en situation de se poser des questions, d'avoir des questions sur leur organisation, sur leur stratégie, sur leur management. Donc je pense qu'il y a une grande expérience qui peut être utile Et qui peut aider. Alors aujourd'hui, à travers du bénévolat, déjà, je le fais pour des toutes petites entreprises qui sont un peu en difficulté. J'ai des contacts aussi avec une association Cunact qui pilote justement du bénévolat pour aider des entreprises qui ont besoin de coaching, qui ont besoin d'aide, de seniors pour les aider à grandir.
Mais ça ne doit pas être évident de passer de 4000 à soi-même,
voilà,
se vendre soi.
Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va être forcément très différent, mais je pense que bon, il faut trouver ses marques, et puis de toute façon, c'est aussi à un moment donné, je pense, une étape dans la vie où je pense que arrivé à un certain âge, il faut aussi pouvoir passer à quelque chose de différent. Donc, je vais le faire sans doute 2 à 3 ans avant que de l'avoir fait dans la projection que je pouvais avoir, mais je pense que ça sera très intéressant.
Et vous, Clémentine, vous prenez la présidence, en quelques mots, du comité PME, Aéro-PME, qui représente les 220 PME françaises du GIFAS, du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales.
Oui.
Donc, sortie de zone de confort aussi.
Sortie de zone de confort, pour deux raisons. C'est que d'une part, je ne prétendais pas forcément au titre. Je n'avais pas misé là-dessus tout à fait dans les années qui ont précédé cette élection. Ça s'est passé l'été dernier, donc voilà, je suis très honorée qu'on m'ait choisie. Mais c'est vrai que ça m'est un peu tombé dessus dans un sens. Mais je me sens aussi assez légitime parce que j'ai notamment été au bureau des PME du GIFAS pendant quelques années au préalable et j'ai œuvré sur un certain nombre de sujets qui me tenaient à cœur et qui ont été plutôt bien menés. Donc voilà, assez à l'aise dans l'environnement des PME du GIFAS depuis quelques années. Quand on m'a demandé de prendre la présidence, j'ai dit OK.
Et c'est très loin de vos débuts où vous dormiez. Vous m'avez dit que vous dormiez avec votre matelas pneumatique.
Donc, quand on a une histoire de start-up dans l'aéronautique, on est un peu un ovni, parce que c'est pas trop le monde des startups, si ce n'est que justement le GIFAS a ouvert aux startups depuis l'année dernière et que ça commence à porter ses fruits. Donc je me dis que les startups, maintenant j'arrive même à parler à des entreprises du GIFAS de mes histoires de camping et autres joyeusetés du démarrage. En effet, matelas pneumatique dans les toilettes d'une usine, c'était un bel épisode de 3 mois dans ma vie.
Pour dormir, parce que vous n'aviez pas les moyens.
Pour dormir, parce que j'avais pas les moyens de me payer un loyer, et la machine étant à côté, bon bah c'était quand même pratique de se lever et de pouvoir aller travailler directement. C'est le scénario royal pour un patron, d'avoir un salarié qui dort dans les toilettes, c'est pratique. Et donc moi, c'était mon truc, parce que la machine était disponible dans un temps qui était assez court et il fallait que tout ça rentre dans les 2 mois, donc il fallait quand même bosser plus que de raison. Mais je faisais aussi cuire des pizzas dans des fours à polymérisation de pièces en composite, donc tout allait bien à l'époque, j'avais absolument peur de rien. Et j'avais des petits moments de solitude quand même. Étant une fille dans un atelier. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, être nommée à cette fonction, ça m'honore et que je pense que, voilà, avec un peu de dynamisme et d'envie d'en découdre, il y a quelques sujets qui touchent aujourd'hui la filière qui sont hyper intéressants à traiter. Il y a le redémarrage de l'aéro avec des cadences qui sont en train de repartir comme en 40 et un challenge industriel colossal. Donc on est à la manœuvre et on est dans un collectif et je suis pas exposée comme je peux l'être dans mes fonctions de chef d'entreprise, mais là dans un collectif qui a juste envie de bien faire pour que ça se passe bien et que cette super filière qu'on a en France continue de croître et de se pérenniser.
En tout cas, on vous souhaite à toutes les deux une très belle nouvelle vie dans vos nouveaux challenges, que ça soit pour Claude ou pour vous, Clémentine. On va terminer par un portrait chinois. Si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Clémentine ou la Claude de 20 ans vous dirait en vous regardant ?
Alors moi, je pense qu'elle dirait, tu vas réaliser tous tes rêves, donc c'est une belle vie qui t'attend, une belle vie professionnelle, mais aussi une belle vie personnelle. Donc je pense que...
Et elle serait fière de vous en vous regardant aujourd'hui ?
Oui, je pense.
Et vous, Clémentine ?
Ah, la question ! Elle se dit, c'est quoi la prochaine aventure ?
Qu'est-ce qui vous ressource ?
Alors moi, ma maison de campagne, parce que c'est mon havre de paix. Et c'est aussi ce qui m'a motivée, c'est la maison de mes grands-parents que j'ai réussi à racheter, à rénover pendant 30 ans. Et c'est vraiment mon lieu de vie et là où je me ressource régulièrement. Donc c'était un de mes rêves d'enfant et j'ai eu le plaisir de le réaliser. Donc comme je disais avec un collaborateur récemment, j'ai su pourquoi je me défonçais et pourquoi je travaillais.
Moi, ce qui me ressource, c'est le contact avec la nature. Alors dans une version un peu crue, parce que j'ai pas de maison de campagne, j'ai pas un lieu pour me ressourcer en propre, mais par contre le voilier, la montagne, le ski, enfin être dans des éléments un peu rudes et pour lesquels il y a un petit peu d'incertitude aussi quant à la façon dont on va être traité, moi ça me fait beaucoup de bien.
D'adrénaline.
Voilà.
Une discipline de vie qui vous sauve.
Moi, c'est la natation. C'est quelque chose qui me sauve littéralement. La nage en mer, donc je nage beaucoup en mer. J'ai fait quelques compétitions, des longues distances dans de l'eau vive et froide. Et j'ai découvert ça quand je suis arrivée à Lorient, parce que étant lyonnaise, étant plutôt portée sur les montagnes, arrivée au bord de la mer, qu'est-ce que je vais faire? Il y a pas de relief, c'est pas possible. Et donc je me suis inscrite au club de natation du coin. Je nageais plus ou moins, mais j'ai peu amélioré mon crawl et ça m'a valu ensuite de croiser mon voisin qui m'a dit viens je t'emmène en mer, et là je me suis dit mais c'est juste génial, c'est comme de partir faire une rando en montagne. Et donc maintenant je mets ma combi, je vais nager devant la maison et une heure de natation, je sais pas mais à quel niveau ça se passe, mais c'est juste magique, parce que c'est de la respiration, c'est de la méditation, vous êtes dans le silence, vous êtes porté. Moi je suis plutôt d'un gabarit un peu lourd, donc la course à pied tout ça, ça me dit rien, et par contre me faire porter par l'eau et être dans le silence de la mer, c'est juste fabuleux quoi.
Et moi, c'est le bricolage, parce qu'on ne peut pas bricoler sans se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Et donc, on se vide d'une certaine manière la tête, puisqu'on pense à l'objet qu'on est en train de réaliser, que ce soit en termes de couture, de menuiserie. C'est à la fois du calcul, c'est à la fois scientifique, c'est à la fois manuel, c'est à la fois créatif. Donc, je trouve ça extraordinaire.
Vous m'avez dit que vous êtes capable de poser une cuisine.
Oui.
Qu'avez-vous accepté de la vie?
La joie.
Qu'elle ne soit pas toujours juste.
C'est bien vrai. Merci Claude France, merci Clémentine Gallet, merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci à Camille Codor, Marie Jaworski, merci à Sandrine Dao, Zaya Cassel et à l'équipe des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.